9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une heure pour parler d'islam tous les jeudis sur Beurre FM, 9h-10h, le rendez-vous que vous donne l'imam Abdelali Mamoun. Comment allez-vous, imam Abdelali?
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatoullah, ça va très bien, alhamdoulilah, je suis content d'être avec toi encore une fois et avec un beau temps en plus, magnifique.
Vous faites la météo aussi?
Nous on est à Paris, donc je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, donc je ne peux pas faire la météo pour toute la France.
C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui.
Aujourd'hui il fait beau, faut quand même le dire, quand il fait beau on peut le dire Philippe.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça fait plaisir, ça fait un moment qu'on n'a pas eu du beau temps, hein, on a eu droit. Ah si, moi si j'ai eu droit, ça, la Mecque quand j'étais là-bas, Mecque al-Mukarrama, c'était super. On avait aussi du beau temps, mais on avait aussi de la pluie.
C'est
à
vrai.
Médine, on a eu de la pluie. À Istanbul aussi, on a carrément une tempête de neige.
C'est vrai, c'est fou ça.
Ah ouais, là-bas,
et en plus, en plein mois de mars.
Froid. Il fait plus froid à Istanbul qu'à Paris, ça c'est sûr.
Bien, imam Abdelali, on commence cette émission par une question qui fâche. On va revenir un petit peu sur ces intellectuels occidentaux qui accusent et dénoncent que l'islam est incompatible avec les sociétés occidentales. Et... qui, à chaque fois, disent que finalement, il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme.
Oui, et surtout parce que ces gens-là considèrent que l'islam impose un système et une organisation politico-sociale qui est différente de la leur. Et c'est parce que cet islam-là vient imposer ce système différent qu'ils se sentent menacés et qu'ils considèrent que l'islam est incompatible avec la société occidentale qui a déjà son modèle social, qui a déjà son contrat social, de celui de Rousseau, celui de Voltaire, celui de Montesquieu, celui de toutes ces intellectuels qui ont traversé l'histoire de France et qui ont construit la démocratie, qui ont construit l'humanisme à la française. Et qu'il n'est pas question qu'on accepte que des gens venus de l'étranger leur donnent des leçons en la matière, etc. etc. Moi aussi, je pourrais aussi ajouter à cela que la France a été, à un moment donné, traversée par des réalités qui ont débordé de leur pays d'origine. Par exemple, je citerai le communisme de Lénine, qui était d'abord profondément imprégné du marxisme de Karl Marx, qui est d'abord une idéologie matérialiste, mais surtout qui prône le prolétariat, c'est-à-dire l'égalité entre les humains et la vraie fraternité qui consiste à se nourrir de ce que l'on a besoin. On n'a pas besoin de gagner plus que ce que l'on a besoin. Et c'est ce système-là qui a voulu être imposé en Russie à l'époque, mais qui deviendra l'URSS, puis qui redeviendra la Russie plus tard. Mais cette France, aujourd'hui, a été profondément touchée par cette idéologie. Et l'islam est une idéologie, si on regarde bien. Elle vient avec effectivement un certain nombre de compréhensions des valeurs qui a été compris par le communisme différemment que ce qui a été compris par exemple, Adam Smith et son libéralisme. Est-ce que l'on peut dire que pour autant, l'islam est une menace alors qu'on n'a jamais dit que le communisme, le libéralisme ou toute autre idéologie a été une menace pour la France? On dit que non. On dit tout simplement que c'est un apport intellectuel, idéologique qui vient proposer, pourquoi pas, des valeurs, des idées, une compréhension de ces valeurs, et c'est à la société d'approuver, de soutenir cette idée ou non. Bon, moi je pense que le premier problème de cette question, c'est d'abord le fait, c'est son étiquette, c'est son estampillage, c'est le fait que ça soit d'origine sarrasine, hein. Vous savez que le mot sarrasin est un mot grec qui a pour origine l'arabe, qui est charqui. Donc charagi, c'est devenu sarrasin. Et donc qui étaient à l'époque les gens qui habitaient en bas de la Mésopotamie, donc irakienne, et c'était ces gens-là qui étaient visés par, à l'époque, je parle du 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, qu'on appelait les sarrasins. Donc cette notion d'estampiller ces valeurs-là d'une entité qui a été longtemps en antagonisme, donc en tension avec les musulmans et avec la société entre l'islam et l'Occident, effectivement, déjà, même sans même voir si elles sont valables ou pas, ou elles sont recevables ou pas, on les rejette parce qu'elles viennent de pays contre qui nous avons été longtemps en conflit. Donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, il y a des préjugés. Il y a des préjugés, par exemple, le fait que l'on pense que l'islam veut imposer. L'islam veut rien imposer, puisque nous, les musulmans, nous n'avons pas le droit d'imposer quoi que ce soit. La seule chose qu'il nous est possible de dire qu'on pourrait, si on avait les moyens d'imposer, ce sont les valeurs universelles, ce sont ces valeurs communes. Par exemple, on doit imposer la justice, on doit imposer l'égalité, on doit imposer la liberté de conscience, la liberté, etc. Toutes ces valeurs qui consistent à imposer ces valeurs qui contribuent à promouvoir la paix et l'égalité de traitement entre les individus et tous les individus de la société, ce sont des valeurs que l'on a le droit d'imposer, même par la force. Et ça, c'est ce que prône l'islam. Et c'est ce qui est nouveau en plus, puisque dans le christianisme, il n'a pas été autorisé aux apôtres d'utiliser les armes pour se défendre ou pour imposer le christianisme. Même Moïse, à l'époque de Pharaon, quand il a été persécuté par Pharaon, Dieu ne lui a autorisé que de partir et de quitter l'Égypte avec son peuple pour aller vers la terre promise. Et donc, il ne lui a pas permis de combattre et d'utiliser la force pour combattre l'oppresseur qui était Pharaon à l'époque. L'islam, non. L'islam, à partir du moment où le verset coranique, l'année 2, a été révélé et qui donne la permission aux musulmans de se défendre, il parle bien de se défendre. Hein, le verset, c'est le verset suivant, qu'on appelle Ayatul Qital, le verset qui permet l'utilisation de la force et de la violence. C'est le verset qui dit Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Il a été enfin permis à ceux qui ont subi l'injustice de se défendre, entre guillemets. Il n'est pas cité le mot de se défendre, mais il a été permis, on comprend qu'il s'agit de se défendre. Et que Dieu est capable de leur donner du secours, donc de les secourir et de leur donner la victoire. Donc ce verset-là a été considéré comme étant le verset qui autorise et permet l'utilisation de la force et qui est tout à fait nouveau. C'est une véritable innovation dans les religions et dans les messages que Dieu a transmis à tous ses prophètes, puisque pour la première fois, un prophète a le droit, et Dieu lui permet de se défendre en utilisant la force pour imposer la justice, la paix, l'amour, etc. et l'ensemble des valeurs universelles, humaines et même qui deviennent islamiques d'une certaine manière, qu'on peut estampiller comme étant islamiques, mais que l'on va garder comme étant universelles, parce que si on dit qu'elles sont islamiques, c'est comme si on imposait l'islam, l'estampillage islamique. Et c'est ça qui, à mon avis, peut causer problème. Maintenant, revenons à la question de ces préjugés que ces gens-là ont à l'égard de l'islam. D'abord que l'islam, certes, elle propose une certaine, on va dire, ingérence dans l'organisation de la société, mais seulement dans la définition de ce que l'on considère comme étant les valeurs. La définition, c'est-à-dire quelles sont les limites qui définissent, par exemple, la liberté. Qu'est-ce qui définit, par exemple, la pudeur? Quand on dit commettre un attentat à la pudeur, qu'est-ce que c'est que l'attentat à la pudeur dans l'esprit des Occidentaux, dans la société française par exemple en particulier, et selon le Coran et selon la tradition musulmane, elle n'est pas du tout la même. Donc effectivement, on peut avoir là une contradiction entre ceux qui disent que au nom de cette liberté, je vais m'autoriser de me promener nu dans la rue. Eh bien, la loi française veut dire non, monsieur, vous commettez un attentat à la pudeur. Et dans l'autre sens, un islam qui va dire, maintenant, on va aller plus loin, on va aller jusqu'à tirer, on va aller imposer un peu plus la notion de la pudeur pour interdire la mixité, par exemple, dans les piscines ou dans les écoles, etc., etc. Parce que c'est une atteinte, là aussi, à la pudeur de la femme et de l'homme. Et elle est là, la définition, c'est on va dire là, le point dans lequel il peut y avoir des divergences, non pas sur le fait qu'on adopte toutes ces valeurs, mais sur le fait de limiter. Comment on limite, quelle est la définition de la valeur, la pudeur, par exemple, mais aussi on peut parler de ce que c'est que la laïcité, parce que l'islam est une religion.
Mais sur la question de la piscine, par exemple, les maires ou les municipalités qui se trouvent confrontées à ce problème, si elles accordent des jours particuliers, on va dire, voilà, vous avez cédé à l'islamisme.
Voilà, mais le problème est là, alors qu'il y a énormément de femmes qui ne souhaitent pas que l'on voit leur corps, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. C'est simplement quelque chose qui relève de la pudeur, et qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi en France, on autorise des plages nudistes. Pourquoi on ne pourrait pas imposer des plages habillistes, où les gens ne pourraient y aller que seulement s'ils sont habillés?
C'est intéressant. Alors, c'est un concept.
En burkini ou en...
La plage habilliste.
Pourquoi pas? On est quand même dans un pays de droit. pourquoi on aurait droit à des plages nudistes et pourquoi pas des plages habillistes où il n'y aurait que des gens habillés qui auraient le droit d'être là? Pourquoi on ne pourrait pas? Moi, je me pose la question. Si on est dans un pays de droit où il y a la liberté et que tout le monde qui souhaite avoir des spécificités puisse l'avoir, où on dit non, personne, tout le monde pareil. Donc, pas de plage nudiste, pas de plage, tout le monde à la même enseigne. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, on vous dit, mais il va y avoir des vestiaires pour les filles et des vestiaires pour les garçons, des toilettes pour les garçons et des toilettes pour les filles. Et ça, c'est au nom de la pudeur comprise par l'Occident. Mais qu'au moment où on sort des toilettes ou des vestiaires, on est ensemble dans le bassin en petite tenue, c'est-à-dire en maillot de bain. Et c'est ce que je trouve un peu paradoxal. C'est qu'à partir du moment où il y a de l'eau, on peut être tout nu ou à moitié nu. Mais si on est dans la rue ou dans un vestiaire, là non, plus personne n'a le droit de se voir en petite tenue. Je ne comprends pas la notion. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit de me promener en maillot de bain dans la rue, sur le trottoir, mais j'aurais le droit...
Parce qu'on a vu suffisamment d'horreurs avant. Donc vous ne pouvez pas vous promener en maillot de bain dans la rue.
Ouais, bon,
sauf si vous mettez des plumes.
Bon, non, mais revenons, soyons sérieux, Philippe.
Oui.
En tout cas,
non, mais c'est notion, votre exemple, vous voyez.
Cette notion de pudeur, par exemple, c'est qu'elle était effectivement. Je crois qu'il faudrait creuser la question et que des intellectuels se penchent sur sa définition, parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution de sa conception et notamment de son caractère extensible, de plus en plus marqué, et qui aujourd'hui répulse d'autres sociétés ou d'autres cultures qui n'ont pas eu cette même évolution extensible de la notion de la pudeur, par exemple. Mais il y en a d'autres aspects, tels que, par exemple, on peut parler de l'égalité des droits, on peut parler de la liberté religieuse, etc. Toutes ces valeurs, Philippe, doivent faire l'objet de débats démocratiques afin d'en définir les contours et les limites. Et c'est ça là où il y a débat. Un communiste va vous dire, non, moi, ma notion des droits ou de l'égalité des droits n'est pas la même que celle qui est conçue par des Occidentaux qui disent, moi, si j'ai étudié Bac plus 10, c'est pas pour me retrouver avec le même salaire qu'un ouvrier qui, lui, a rien foutu quand il était gamin. Au lieu d'aller travailler, il est resté à la maison. Il est normal que moi, je touche un salaire plus important que lui, même si c'est plus que mes besoins. Même ça constitue un salaire qui est 30 fois ou 50 fois mes besoins. Le communiste va dire, non, monsieur, non, vous avez besoin que de 2000 euros, pourquoi vous voulez toucher 50 000 ou 100 000 euros par mois? Voilà, tout ça, effectivement, fait l'objet de débats depuis très longtemps, et c'est pas seulement depuis que les musulmans sont là que ces divergences sur la notion des valeurs fait l'objet de débats et de discussions. Donc à partir de là, moi je pense que l'islam, certes vient proposer une notion, peut-être même plusieurs notions, peut-être même plusieurs interprétations, parce que là encore, il n'y a pas un islam, mais des islams ou des interprétations de nos sources scripturaires que sont le Coran et la Sunna. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a des interprétations qui viennent se greffer à ces interprétations, et voilà, rentrons tous dans le débat démocratique, et le plus convaincant, que le plus convaincant l'emporte. Et c'est ça la beauté de cette valeur qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté de conscience, que l'islam prône, que l'islam encourage, et dont aujourd'hui beaucoup de musulmans sont privés, et ou dont ces droits-là sont bafoués par des dictatures ou autres. J'ai vu encore récemment un article qui parlait d'un travail qui était fait par un intellectuel sociologue sur quel est le pays dans le monde qui applique le plus les préceptes de l'islam. Philippe, eh bien, en premier, c'est l'Irlande, ensuite le Danemark, et ensuite, le premier pays musulman qui vient dans la liste de ce travail-là.
Y compris des pays qui n'étaient pas musulmans, en fait. Oui, globalement.
Ouais. Tous les pays du monde, les nations du monde entier, il y en a 204, je crois, à peu près, dans le monde. Combien il y a quel est le pays qui pratique le plus les règles
On s'en fait éloigner, hein, oui.
Voilà.
Donc,
et il dit que c'est l'Irlande en premier, l'Irlande qui ne connaît même pas l'islam, et c'est elle qui pratique le plus les préceptes de l'islam.
En quoi, par exemple?
Les valeurs morales, les valeurs, ce qu'on appelle les
D'accord,
valeurs.
Mais ça veut dire qu'elle applique les valeurs de l'islam sans les appliquer, sans le savoir.
Sans le savoir.
C'est ça.
Sans dire que ça s'appelle l'islam.
D'accord.
Sans l'étiqueter islam.
Voilà.
C'est le contenu, c'est
mais
l'islam.
Mais l'éthique
le contenu,
correspond
c'est
le plus à ce que c'est l'islam.
À l'éthique D'accord. et à la morale musulmane. Mmh. Eh bien, c'est l'Irlande. Ensuite, c'est le Danemark et ainsi de suite. Il cite un certain nombre de pays. Le premier premier pays musulman qui vient, c'est la Malaisie en 33e position.
Mais avant l'Indonésie ?
Non, oui, avant l'Indonésie.
Oh mince.
La Malaisie, quand même, on peut dire que c'est quand même un pays qui est assez bien évolué en matière d'éthique et de morale. Donc, c'est le premier pays qui vient dans la
liste. Et les pays du Maghreb dans le classement ?
Les pays arabes, ouais. C'est le Koweït en 48e position. Le Koweït. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 47 pays non arabes qui sont mieux que le meilleur des pays arabes et en matière de respect de l'éthique et de la morale musulmane. Donc, tout ça pour revenir à la question que c'est une erreur que d'imaginer qu'aujourd'hui, l'islam est quelque chose d'incompatible avec la société occidentale. L'islam est une religion qui est totalement assimilée et qui adopte depuis très longtemps, depuis 1400 ans, l'ensemble des valeurs occidentales et vice-versa. Même les valeurs occidentales ont été piéchées et piochées dans les valeurs religieuses, chrétiennes, musulmanes et autres. Hein, il ne faut pas imaginer que les Occidentaux ont découvert d'eux-mêmes ces valeurs morales, ces valeurs universelles. Hein, ils ont tous été piochés dans la Bible ou dans le Coran. Donc à partir de là, pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est un problème, c'est avec l'islamisme. Le mot islamisme, dont la définition est de vouloir promouvoir ou d'imposer l'islam aux sociétés occidentales, là, effectivement, moi, je considère que cette expression est une innovation égarante, qu'il n'y a pas d'islamisme en islam, qu'on a une religion qui s'appelle l'islam et on a des gens qui pratiquent l'islam qu'on appelle des musulmans. Et c'est tout. Il n'y a pas d'islamiste, de militant qui défend un islam. L'islam n'a pas besoin d'être défendu. L'islam est comme on dit l'expression, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà, c'est nous qui avons besoin de l'islam et non pas l'islam.
On reviendra sur ces questions, Imam Abdelali. Job éthique, chaque semaine, vous examinez une profession au regard de l'islam. Et cette semaine, ce sont les métiers de l'agroalimentaire.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, à votre spiritualité, c'est vrai que la discussion continue hors antenne, on se fait surprendre Imam Abdelali. On va parler des métiers de l'agroalimentaire et ses dérives aujourd'hui, parce qu'on découvre que finalement dans les cuisines de l'agroalimentaire, il se passe beaucoup de choses, Imam Abdelali.
Oui, effectivement. D'abord, il est important de définir qu'est-ce que l'on veut dire quand on parle de l'agroalimentaire. Il s'agit tout simplement de l'industrie qui consiste à transformer des produits naturels en produits industriels, ouais. dont l'objet est de rentabiliser la consommation des produits, notamment par exemple quant à la manière de prolonger sa dureté, sa résistance au temps, etc. ou par exemple modifier son goût pour satisfaire des consommateurs. Donc tout ce travail là qui est fait au niveau de l'agroalimentaire est une activité qui est très importante en France et dans le monde en général. Et il est important que les savants de l'islam se penchent sur la question pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il est autorisé de procéder à ce genre de transformation ? Est-ce que l'on peut dire que, par exemple, il est totalement interdit de transformer un aliment sur la base du verset qui dit « La tahrira li khalqillah » Il est interdit de changer ou de modifier la création de Dieu. Eh bien, moi, je pense que non, tout simplement parce que déjà à l'époque du prophète, on transformait la farine en pain, on transformait le lait en fromage, on transformait énormément de produits naturels, on les transformait pour en faire d'autres produits, pour promouvoir une variété de produits à consommer. Et ça, c'est effectivement l'un des dons qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé et qu'il est autorisé de procéder. Donc, cette transformation... en général, la position des musulmans, c'est de dire que c'est autorisé de le faire, à condition que cette transformation ne constitue pas une nuisance, un danger, un péril pour la santé ou pour la vie des consommateurs. S'il y a danger avéré, immédiat, que celui qui consomme ce produit-là va être obligé d'aller hospitalisé parce qu'il va être empoisonné par un produit chimique ou autre qui aura transformé le produit naturel, eh bien sûr, cette transformation est proscrite. Elle est interdite, elle n'est pas autorisée parce qu'elle constitue une nuisance et un danger pour les êtres humains. Par contre, si elle ne constitue pas un danger il n'y a aucun danger pour le consommateur, et que la transformation a été faite en utilisant des produits chimiques dont l'origine est végétale. Eh bien là, effectivement, on va dire que c'est autorisé, il n'y a aucun problème, parce que tous les végétaux sont halal, ce qu'on prouve le contraire. Par contre, s'ils sont d'origine animale, on va dire que oui, pourquoi pas, vous pouvez transformer des produits alimentaires, par exemple en utilisant des additifs ou des émulsifiants et autres collagels ou gélatines qui ont pour objet de fixer, de stabiliser, par exemple, la coloration, le goût, etc. Oui. Eh bien, c'est autorisé à partir du moment où on utilise un animal qui a été qui est halal d'abord à la base, donc un animal herbivore, puisque tous les animaux herbivores sont halal à part l'âne qui n'est pas autorisé, mais tous les autres animaux herbivores sont halal, qui sont exclusivement herbivores et qui ont été abattus selon en respectant le rite islamique ou juif, ou voire même si on revient aux origines chrétiennes, puisque les gens du livre en principe leur nourriture est halal, puisque dans le verset 5 dans la sourate 5, sourate al-Maïda, Dieu dans le Coran il dit al yawma uhilla lakum at-tayyibat, aujourd'hui vous a été autorisé tout ce qui est bon à manger, et la nourriture des gens à qui on en a envoyé révélé un livre, en parlant des gens du livre, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les musulmans, vous sont licites. Et votre nourriture leur est licite aussi, comme le dit le Coran. Donc à partir de là, si on se base sur ça, il n'y a pas de problème. Le souci c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on sait que dans beaucoup de pays occidentaux, notamment la France, qui est d'abord un État athée, laïque, mais surtout qui ne prend pas en compte en considération la dimension religieuse de l'abattage, eh bien la viande n'est pour la plupart du temps n'est pas halal, c'est-à-dire qu'elle a été abattue autrement que selon en respectant les rites musulmans. Donc toutes ces viandes là qui ne sont pas estampillées halal parce qu'il n'y a pas eu de sacrificateur musulman qui a égorgé l'animal et en même temps contrôlé par des contrôleurs qui vérifient que la viande halal est bien, on va dire, celle qui est servie sur le comptoir du boucher ou dans le domaine des plats cuisinés, etc., n'est pas estampillée et conditionnée avec, pour s'assurer que la viande est bien halal, en principe, cette viande-là, on ne peut pas l'utiliser. Donc on ne peut pas en soustraire des produits chimiques pour stabiliser, pour modifier, pour le goût, etc., d'un produit de consommation qui est lié à l'activité agroalimentaire. Je cite un exemple, les bonbons Haribo, par exemple, c'est de la gélatine, pour la plupart du temps, de porc, où ce sont des peaux de porc, hein, parce qu'on a bien vu le reportage qui montrait bien comment ça se passe, ce sont des peaux de porc que l'on va transformer, et que l'on va avec laquelle on va fabriquer on va utiliser le collagène qu'il y a dans la peau de porc pour fabriquer cette gélatine qui va constituer le moyen de stabiliser la couleur, le goût, etc. du bonbon Haribo et autres. Et donc sur cette base là les savants ont dit c'est pas halal. Les bonbons Haribo sont pas halal parce que on a utilisé des produits, des additifs, des émulsifiants et autres. Par exemple, E471, hein, qui est un additif qui a pour objet de stabiliser et de coaguler les produits de manière à ce qu'ils restent homogènes, comme l'est le bonbon qui est quand on le palpe, par exemple. Eh bien, il retrouve sa forme pour la plupart du temps. C'est ce collagène, c'est cette gélatine qui va provoquer cette nature, cette texture du bonbon.
Alors aujourd'hui, il existe des versions qui sont halal de ces bonbons, oui. Mais où il y a quand même des colorants.
Oui, donc le colorant, là aussi encore, c'est toujours.
Mais qu'est-ce que je veux dire ?
Mais j'ai pas terminé, hein. J'ai pas terminé, Philippe, parce que là encore, il faut s'interroger sur ces produits, ces émulsifiants, ces gélatines, etc., qui sont d'origine porcine, est-ce qu'elles ont subi une totale transformation ou non? Parce que la question, c'est de savoir, de distinguer entre le consommateur et le producteur. Le producteur qui utilise ces produits illicites et impurs, comme le porc, par exemple, eh bien, commet en islam et est en contradiction avec les préceptes de l'islam. Donc, un musulman ne pourrait pas travailler dans la fabrication de, par exemple, de bonbons, mais il y a plein d'autres. Il y a les gâteaux, il y a les produits de beauté, il y a les médicaments, les fameuses gélules qui englobe le médicament, ben, c'est fabriqué aussi avec de la gélatine. Donc tous ces produits, même les glaces aussi, hein, les glaces qu'on mange, ben, c'est fabriqué aussi avec de la gélatine. Donc tous ces produits-là, un musulman ne pourrait pas travailler dans sa production parce qu'il sera obligé d'utiliser des produits qui sont à la base illicites. Mais maintenant, on l'a, il est là, il est devant nous, on a un produit qui s'appelle de la gélatine ou du collagène ou des additifs ou des émulsifiants. Tous ces produits-là que je vais avoir devant moi, qui ont été transformés, est-ce qu'ils ont subi une totale transformation qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus parler de peau de porc ou de peau d'animal illicite qui n'ont pas été égorgés selon n'ont pas subi l'abattage rituel, ou est-ce qu'on va dire c'est un animal illicite, donc là il n'est pas autorisé d'utiliser ces additifs. Eh bien, il y a divergence aujourd'hui, même entre les scientifiques, les chimistes, les spécialistes en agroalimentaire, qui ne sont pas tous d'accord sur le fait, est-ce qu'il y a une transformation moléculaire totale du produit qui est à l'origine illicite et qui devient licite parce qu'il a été transformé ou non. Il est là tout le débat. Donc, certains disent, il y a une transformation totale, et c'est sur cette base-là qu'énormément de savants, notamment saoudiens, les plus rigoristes, qu'on a, les salafiyins, les salafistes, qui considèrent que, et donc, qui sont les plus rigoristes, qu'il y a eu transformation totale, donc, ce produit-là devient halal, comme exactement le vinaigre, qui est à l'origine du vin aigre, hein, c'est pour ça qu'on dit vinaigre, ça vient du mot vin aigre, et qui a subi une transformation que le prophète a consommé et trempé son pain selon un hadith rapporté par Muslim et Tirmidhi, tremper le pain dans le vinaigre et il disait ni'ma idam ul khal, oh combien la sauce de vinaigre est bonne, et combien elle est que j'aime ça. Donc il se vantait de tremper son pain dans le vinaigre et il le consommait et il disait que le vinaigre est halal, alors qu'on sait que le vinaigre passe par une transformation qui une étape qu'on appelle de l'alcool. Il se transforme de jus de raisin en vin et ensuite de vin en vinaigre. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de consommer. Donc, finalement, c'est le produit final qui nous intéresse. Est-ce qu'il est, il a subi une totale transformation par rapport au produit illicite ou non? Si on dit que, je dis bien, je répète, si on est sûr que le produit a été totalement transformé, il a subi une transformation chimique qui fait que ce nouveau produit n'a rien à voir avec le produit initial, eh bien, les savants sont unanimes pour dire que c'est halal, que c'est autorisé de le consommer. Si par contre, on dit que non, elle n'a pas subi une totale transformation, mais une transformation partielle, ce qu'on appelle istihala, qui est partielle, cette istihala, c'est-à-dire cette transformation est partielle, et donc il reste une nature d'origine qui est naturelle qu'il y a dans cette gélatine, dans ce collagène qui deviendra de la gélatine. Eh bien, à ce moment-là, on dira que ça n'est pas halal, puisque le produit initial qui n'est pas halal, qui est impur à la consommation, est encore présent, donc on ne peut pas le consommer. Et donc, tout le débat est sur cette question-là. Certains sont laxistes, hein, notamment le conseiller européen de la fatwa qui dit « il n'y a pas de problème, vous pouvez manger les gâteaux, les bonbons Haribo, il n'y a pas de halal qui compte dans la matière, puisque la transformation est totale ». Le produit chimique qui est in fine, hein, qui est final, n'a rien à voir avec le produit d'origine, qui est la peau de porc. Hein, donc à partir du moment où il y a une transformation chimique, ça n'est plus haram, il devient halal, comme le vinaigre qui était du vin était haram, le vinaigre devient halal. Voilà. D'autres vont dire non, il n'y a pas de transformation totale, et il y a un doute en plus, le doute subsiste, et quand il y a un doute, il vaut mieux s'abstenir. Et c'est surtout cette position-là, moi, que je retiens. C'est de dire à tous nos auditeurs, auditrices, c'est ceux qui sont soucieux de manger halal, mais yatawarra'ouna an ya'kulu al-halal, c'est quand vous pouvez éviter ce genre de produit, eh bien, évitez-le. Si on a des produits de substitution tels que les produits halal, en plus, il y a des gens qui font l'effort de proposer des produits halal, ils utilisent des émulsifiants qui ont pour origine des matières halal, il faut les encourager, donc acheter leurs produits de consommation. Je ne vais pas citer de noms, mais on a beaucoup aujourd'hui qui propose des bonbons halal, qui propose des gâteaux halal, qui propose toute une gamme de produits agroalimentaires, même les produits de beauté, les crèmes, etc. Eh bien, il faut privilégier ce genre de produits. C'est mon conseil que je donne en tant qu'imam et qui est soucieux de.
Vous pensez qu'il faut acheter du dentifrice halal?
Ah, j'ai pas parlé. Est-ce que j'ai parlé dentifrice?
Parce que
c'est toi qui viens de parler dentifrice. Moi, j'ai pas parlé dentifrice.
Regardez, il y a des produits de beauté, mais aujourd'hui dans les gammes de beauté et dans les produits d'hygiène, il y en a beaucoup.
Oui, mais il y a même le savon.
Il y a
même
le savon. En quoi
il y a des graisses animales dans le savon.
En quoi est-ce que c'est halal, voyez?
Voilà, en quoi c'est haram? Et la question d'abord, c'est de savoir en quoi c'est haram. Voyez, est-ce qu'il y a transformation?
Est-ce qu'à un moment donné, on n'élargit pas trop la question?
Eh ben, il y en a.
Est-ce que la question, elle se cantonne pas qu'à la question de la nourriture?
Je respecte. Ben non, mais donc là, c'est un autre débat. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit? Supposons qu'il y a un produit qui est fabriqué avec de la graisse animale ou de la graisse de porc qui se transforme en rouge à lèvres. Est-ce que j'ai le droit de mettre ce rouge à lèvres sur mes lèvres alors que je sais pertinemment qu'il y a à l'intérieur de ce produit-là de la graisse de porc, supposons, qui n'a pas été transformée. Purement, on a mis de la graisse de porc, on l'a versé dans le produit qui, après, on a fabriqué un stick rouge à lèvres. Et est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour me maquiller le visage? On peut se poser des questions, Philippe. On a le droit de se poser la question. Donc, tawarruan, le prophète dit...
Non, mais je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit de vous poser la question. Je vous dis qu'à un moment donné, c'est... On faut revenir au texte.
Revenir au texte, c'est de dire qu'à partir du moment où un produit propre, pur, a été souillé par de l'impureté, il n'est plus halal, il n'est plus licite. C'est comme si, voilà, moi, demain, je prenais un verre d'eau, je verse quelques gouttes de whisky dedans, et je dis, bah non, comme il y a beaucoup d'eau, c'est pas grave, ça va pas me saouler. Un exemple aussi que je voudrais évoquer, Philippe, si tu le permets, c'est l'alcool dans les pâtes à pizza. Vous savez, alcool éthylique, etc. Aujourd'hui, là encore, le Conseil européen et beaucoup de savants considèrent que c'est pas haram, parce que même si on consommait ces pâtes en grande quantité, on ne pourrait pas s'enivrer. Donc ça reste halal, puisque la règle est dit, c'est que tout ce qui n'enivre pas en petite quantité, en grande quantité, ne peut pas enivrer en petite quantité. Donc n'est pas interdit. Et donc à partir de là, ils ont dit que c'était halal. D'autres ont dit non. À partir du moment où il y a de l'alcool, il y a de l'impureté dans les pâtes, dans ces fameuses pâtes de pizza ou pâtes à feuilleter ou brisées, eh bien, ça n'est pas licite de le consommer.
Bien. Deuxième question en suspens. On avait commencé à en parler la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps de développer. L'histoire du verset que vous nous racontez aujourd'hui, c'est l'histoire du verset du trône. Ayat el-Kursi, 0153-48-3000 pour tous ceux qui voudront rejoindre la conversation tout à l'heure et vous interroger, vous poser des questions.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, l'imam Abdelali Mamoun répondra à vos questions dans un instant au 0153483000. Mais vous nous racontez avant cela, imam Abdelali, l'histoire du verset du trône.
Oui, effectivement, ce don qu'Allah Azzawajal a fait à toute l'humanité, et surtout ceux qui ont accepté de croire à cette révélation faite au prophète Mohammed alayhi salat wa salam, qui est le Coran. Dans ce Coran, Allah Azzawajal évoque un verset qui est le plus noble, le plus important, le plus extraordinaire de tous les versets du Coran. On peut le citer comme étant le meilleur de tous les versets du Coran. On a interrogé à maintes fois et à maintes reprises le prophète alayhi salat wa salam, qui lui-même a posé la question à Jibril, l'archange Gabriel, sur le verset le plus noble dans le Coran. Et à chaque fois, la réponse était Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, où parfois il répondait Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, c'est-à-dire en citant le début du verset de Ayatul Kursi, le verset du trône, le verset de la chaise, on va dire ça comme ça. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, ce verset parle de Dieu. C'est la carte d'identité d'Allah Azzawajal. Et dans ce verset-là, Allah Azzawajal se définit en se démarquant de ce qui n'est pas lui. Par exemple, il se démarque des créatures qui ont besoin de sommeil, qui se fatiguent, qui ne sont pas omniscients, qui n'ont pas toute la science, qui ne sont pas capables d'accorder ou non la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha, et qui ne sont pas donc en mesure de réaliser ce que Dieu seul est capable de faire. Donc c'est une véritable carte d'identité qu'Allah Azza wa Jalla transmet à l'homme pour définir qui est Dieu. Et ce verset-là, comme il est le plus noble, eh bien, c'est effectivement un moyen pour tout un chacun de pouvoir demander protection, d'utiliser ce verset pour se protéger, bien sûr, comme étant un intermédiaire, comme wasila, min Allah, lin al-hafiz, celui qui protège, c'est Dieu. Mais quand on cite le nom d'Allah et quand on récite le verset qui caractérise proprement Dieu et qui parle que de lui, eh bien c'est un moyen des plus forts pour se protéger de tout malheur. Et c'est ce que le prophète à maintes reprises répète à ses compagnons, celui qui veut se protéger des démons humains ou djinnis, qui sont d'origine de race humaine ou des djinns, eh bien qu'il récite Ayat Kursi, et que celui qui veut entrer au paradis et qui n'aura d'obstacle contre lui, le paradis, que seulement la mort, puisque il faut quand même mourir pour aller au paradis. On peut pas mourir, alors on peut pas aller au paradis avant, sans qu'on passe par l'étape de la mort. Mais il dit que celui qui la récite après chaque prière, et kursi, eh bien, il n'aura d'obstacle entre lui le paradis que la mort. Etc., etc. Il y a plein d'autres versets qui font l'éloge et qui parlent, et de hadith du prophète Hassan qui font l'éloge de ce verset du Coran. Alors, si vous le permettez, je vais la réciter. Et c'est le seul verset, un des rares du moins, qui, dans lequel on peut commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alors que ce n'est pas le début d'une sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît le passé et le futur. Et de sa science, il ne saisisse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre. Dans leur garde, ne lui coûte aucune peine. Donc pour les garder, cela ne lui cause aucune fatigue. Et il est l'auguste et l'immense. Hein, sachant que Abd al-Ali, mon nom, moi, c'est justement le serviteur de l'auguste, al-Ali ul-Azim, c'est l'avant-dernier mot de cette sourate, de ce verset-là, Al-Ali, moi je m'appelle Abd al-Ali, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est le serviteur de l'Auguste, celui qui est le Très-Haut. Voilà. Alors cette histoire, c'est quoi? C'est qu'un jour, on dit que Sayyidina Moussa, alayhi salam, a interrogé Dieu, il lui a dit, Dieu, est-ce que tu dors? Est-ce que il t'arrive de te relâcher, de faire l'objet de somnolence? Il dit donc hal yanam Allah azza wa jal. Et Dieu s'est posé la question. Donc Dieu a envoyé un ange. Fa arsala Allah ilayhi malakan fa araqahu thalathan wa a'tahu qaruratayn. Il lui a donné deux récipients ou deux verres fabriqués en verre, et il lui a dit, tiens, ces deux verres là ne les lâche pas jamais, hein, tu les gardes dans tes mains et tu faut bien les tenir bien maintenus dans tes mains. Mais malheureusement, Moïse, après un certain temps, commence à se fatiguer, commence à avoir une certaine somnolence, et donc ses bras se relâchent et les deux verres tombent par terre et se cassent. Et l'ange intervient là, donc par l'intermédiaire de Dieu, donc il lui dit, sais-tu que si Dieu dormait, eh bien, ça serait le sort des cieux et de la terre. Eh bien, le monde et l'univers seraient détruits, seraient anéantis, parce que si Dieu dormait, si un laps de temps, ne serait-ce que un clignement d'œil des yeux et des paupières, Dieu dormait, eh bien, ce monde-là, cet univers-là s'effondrerait sur lui-même. Donc il est important que l'on comprenne que Allah Azza wa Jal est un Seigneur, un Dieu tout-puissant, qui ne somnole pas et qui ne dort jamais.
Allez, dans un instant, Imam Abdelali, vous répondrez aux questions des auditrices et des auditeurs de Beurre FM au 01 53 48 3000.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard, et vous répondez à toutes les questions. On parlait de la différence qu'il y avait entre la définition de Dieu et les attributs de Dieu.
Dans le Coran, Allah Azza wa Jal évoque énormément de ses attributs. Il dit, je suis le, par exemple, l'indulgent, le magnanime, le tout-puissant, etc., etc.
Il y en a combien des attributs?
Alors, en vrai, on ne peut pas évoquer un nombre limité d'attributs et de noms de Dieu, puisque Dieu lui-même, dans un hadith, le prophète évoque que Allah Azzawajal a des noms qu'il s'est gardé pour lui, il n'en a pas informé l'humanité et donc son prophète Mohammed Al-Sallam. Donc, on ne connaît pas la limite de ces noms et de ces attributs. Ce que l'on sait, c'est qu'on en a un certain nombre qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna, notamment un hadith qui dit que Dieu a 99 plus beaux noms. Celui qui il arrive à les cerner, à les maîtriser, eh bien, entrera au paradis, dit le prophète, alayhi salatu wasalam, dans hadith rapporté par Bukhari, quand même, hein. Ce n'est pas un hadith faible. Mais par contre, donc, pour ce qui est de ce verset-là, notamment le verset du trône, c'est un verset qui précise les attributs dans lesquels il a l'exclusivité. Par exemple, le fait de ne pas dormir, c'est exclusivement réservé à Dieu. Le fait que, par exemple, il est l'omniscient, celui qui a tout le savoir, la capacité de protéger les cieux et la terre, c'est réservé à Dieu. La chaise est à Dieu, le trône d'Allah est quelque chose de réservé à Dieu. Donc il y a un certain nombre de choses dans ce verset-là qui sont exclusivement réservées à Dieu, et c'est ce qui fait, quand on parle de définition de Dieu, que par rapport à ses attributs qui peuvent être à Dieu, mais aussi à d'autres.
Bien. Alors, je vais vous demander un peu de discipline, parce que si on veut prendre les auditeurs, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, oui. On va prendre Ada, si vous voulez bien, qui est au standard. Ada, bonjour et bienvenue. Ada.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Marhaban akhti.
Vous comprenez l'arabe ?
Non, mais madame, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne. Ce n'est pas question que moi, je ne comprends pas. Il faut que les gens aussi comprennent.
D'accord, il n'y a pas de problème, je parle français. Je voudrais juste poser pour les jours blancs. Je ne sais pas comment dire en arabe.
Ayam al-bird, ayam al-bird.
Voilà, on est en plein dedans, on est bien d'accord.
Oui.
Pourquoi ce n'est pas les mêmes ici qu'en Algérie ? Parce que ma cousine, quand elle me téléphone pour me dire, moi j'écoute sur le calendrier, ils m'envoient les messages comme quoi...
Alors, je vais répondre rapidement, ma sœur, je vais répondre rapidement. Ce qui est unanimement d'accord, dans lequel tout le monde est d'accord, que les jours blancs, Ayyam al-Bidr, c'est le 13, le 14 et le 15 du mois lunaire. Tous les 13, 14 et 15 du mois lunaire, c'est les Ayyam al-Bidr. Maintenant, qu'est-ce que le 13? Si dans un pays, par exemple, le mois débute un jour en particulier et que dans un autre pays, ça débute le lendemain. Donc le 13, 14 et le 15 vont être décalés d'un pays à l'autre. Mais c'est en tout cas sûr que c'est bien le 13, اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
Et c'est quoi un jour blanc?
Ça veut dire les jours de pleine lune. On dit blanc parce que la nuit est blanche. La nuit est totale, elle est blanche, elle éclaire le monde et elle
donc blanchit. Il peut y avoir 24 heures de décalage finalement
entre deux pays, mais voilà. C'est pas un problème. Vous avez qu'à jeûner 4 jours comme ça, vous tomberez sûrement sur les 3 concernés.
Merci Ada pour votre question. Imam Abdelali, on vous retrouve jeudi prochain. Pour tous ceux qui n'ont pas pu vous poser votre question, quel est votre numéro d'appel ?
06 29 25 35 00. N'hésitez pas à m'appeler pour vos questions. 06 29 25 35 00. Si vous n'y arrivez pas, faut réessayer, faut insister ou rappeler 10 minutes après, parce que des fois je suis en ligne avec d'autres personnes. Je répète encore le numéro, 06 29 25 35 00. C'est aussi numéro pour s'inscrire pour le Hajj et Inch'Allah pour une Umrah avec Ramadan, Inch'Allah. Donc 06 29 25 35 00 pour vos questions ou vos inscriptions pour le pèlerinage. Voilà, marhaban bikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Voilà, Imam Abdelali. Demain, c'est Maître Serhan qui termine la semaine avec nous. À demain.